Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir, c'est Marius qui vous parle. Nous sommes le samedi 11 avril 2020 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 56e volet Entrepod. Alors, un Entrepod très spécial car nous sommes en direct live du grand, du géant, du formidable Podrennes. Mais chacun de son côté car des mesures gouvernementales nous forcent à rester à la maison. Mais ne vous en faites pas, nous verrons quand même si le virus ne nous a pas tous décimés hein, pour vous montrer comment les Normands, enfin Didouille, Starlet et moi-même, savent bien lever le verre et le coude à votre santé. Alors pour cette émission, une équipe réduite, mais l'élite. Allez, on raconte. Pendant le grand confinement, le chef et commandant de l'Entrepod, Nico Boynton, était à la tête d'une bande de chroniqueurs. Celle-ci était composée de musiciens ratés, de reporters mis au placard, de comédiens sans talent, et pire, d'ex-manouches mangeurs de rissons qui devinrent la terreur des podcasts. On les appelait les bouffeurs de micro.
Mon pépère.
Dans cette banque de repris de justesse, nous avons le plus courageux. Confiné depuis maintenant 3 semaines avec Dame Didouille, il a réussi à extraire toute logique et raisonnement de son mental pour tenir le coup. Ses oreilles bioniques, fermeture automatique, filtrent les ondes agressives qui émanent de sa moitié, mais cette solution a ses limites. La maison est devenue trop petite, trop étroite ou tout simplement trop bruyante, l'empêchant de retrouver sa vraie nature de mâle dominant. La nuit, pour retrouver un semblant d'homme libre et une sensation de liberté, il court nu dans le jardin en chantant du Kenkiyu. Mais aujourd'hui, il est bien présent et remonté comme un étalon avant le départ du Prix d'Amérique ou d'une saillie, c'est à vous de voir, j'ai nommé Lulu.
Merci, bonjour tout le monde.
Parlant de Didouille, elle montrera quand même le bout de son nez à un moment. Je vous dis ça, je vous dis rien. On peut pas la mettre au placard, elle est comme ça. En fait, il fait partie de l'élite, comédien de renom. Il est capable de braver les lois du confinement à sa guise. Sa taille, son large sourire et ses dents terriblement bien alignées l'aident à entrer dans son meilleur rôle, le lutin de jardin. Dans ce costume taillé sur mesure, il peut aller et venir à sa guise. Descendant sa rue pour aller à la boulangerie, il prend tout son temps et se fige à la première patrouille qui passe. Ha, il n'y voit rien, il est malin le bougre. Tellement rusé et concentré que même les chiens du quartier viennent faire ses besoins sur lui. Sa moitié est bien fière de lui, mais elle trouve que le pain a un goût légèrement différent depuis qu'il utilise ce déguisement. J'ai nommé Monsieur Arnaud.
Bonjour.
Dans l'équipe, allez, le Géo trouve tout. En ces temps de confinement, il est bon de savoir qu'elle a le petit truc maison pour aider au quotidien. La preuve en est, il y a quelques émissions de cela, elle nous confectionnait des wraps, sorte de petits linges imprégnés de cire d'abeille afin d'éliminer de la maison le film alimentaire en cellophane. Eh bien, elle a eu la sublime idée de les réutiliser pour confectionner des masques chirurgicaux. Très bonne idée, me direz-vous. Très brillante. Et comme ça, rien ne se perd. Le seul souci, c'est que le masque, effectivement, évite de faire entrer le virus, mais qui ne laisse pas passer non plus l'air. Nico, toujours prêt à jouer les cobayes, n'a jamais pu atteindre le bout du jardin. Il savait le souhait toujours avant. Mais bon, il y a de l'idée. Continue comme ça. J'ai nommé Starlet.
Salut Marius, je vais continuer de chercher.
Le confinement a du bon pour certains, mais en déstabiliser d'autres. Lui, pour tromper l'amorosité de ses journées fessiles, a sa technique. Refaire chaque jour un papier peint différent dans chaque pièce de son appartement. Résultat, 4 mètres carrés perdus en épaisseur de mur. Du coup, le stress augmente, ce qui lui donne envie de poser du parquet. Je ne vous explique pas le résultat si le confinement dure encore un mois. Il a quand même réussi à décrocher des travaux pour brancher son micro. J'ai nommé Christophe.
Alors là, t'es carrément à côté de tes pompes, là.
Hey, je vous le présentais en début de générique, le cobaye, le général Leclerc, du micro lanceur de missiles capable de réduire en miettes un auditeur à l'autre bout de la Terre. Le Nico Panzer, réduisant à néant les podcasts ennemis se mettant sur son chemin, mais humain quand même. L'abbé Pierre des ondes, toujours prêt à récupérer dans le caniveau les personnes à part du mouvement, ceux en marge de la société, et j'en sais quelque chose. Un patriote du podcast, hein. Lui, même après l'arrêt du confinement, il restera dans son bunker pour préparer et inventer toujours de nouveaux projets à partager avec vous, auditeurs, par le biais des ondes. Allez, je te refile les clés de l'émission, porte bien haut et fort le nom de l'Entrepod, on est en temps de guerre, bordel. J'ai nommé Nico Boynton. Elle est chiante la musique derrière.
Hein. Ça va, Marius.
Hein, elle est chiante. Merci, Marius. Ouais. Mais non, elle est très bien ta musique, Marius.
Oui.
Alors, est-ce que vous savez
merci,
ça vient
merci à tous d'être là.
En revanche, je vois pas pourquoi tu m'as intégré dans une rubrique bricolage, quoi. Je vois pas le lien du tout.
Et ça, je te rassure moi non plus. C'est vrai que là, nous a fait.
Ouais. Erreur de casting.
Ouais.
Erreur de casting.
Ouais, c'est ça, voilà, je vois pas
comme
le lien.
Tu dis, on a réussi à se rejoindre quand même, à se retrouver tous, et merci à l'équipe de Podrennes de nous inviter. Alors, on est de retour après quelques semaines, après notre dernière émission, qui était une première à distance pour l'Anthropod. C'était vachement cool de se retrouver à l'époque, et visiblement, nos auditeurs ont été assez sympas pour ne pas nous tenir rigueur pour la piètre qualité sonore. Et là, on le refait, alors avec encore quelques difficultés techniques aujourd'hui, mais grâce au super soutien de Randall Fly, notamment, on y arrive. Alors, pas d'invité dans cet épisode, hein, on est juste entre nous, ou presque. Il manque quelques personnes, hein, si vous avez suivi l'intro de Marius. Donc, Freddy et Didouille ne sont pas parmi nous. Donc, un épisode sans invité, ça veut dire uniquement des rubriques de la bande de l'Anthropod. Et on terminera avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Et puis, bon, on va juste faire un petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas, hein, parce que bah, Podren, il n'y a pas que des gens qui nous écoutent d'habitude. Hein, donc, l'Anthropod, c'est une équipe qui se rejoint quasiment mensuellement. Donc, on est 8 normalement. Donc, moi-même, Nico, Starlet, Didouille, Ludo, Arnaud, Christophe, Marius et Freddy. On a lancé ça il y a 7 ans. On va attaquer notre 8e année, là, déjà. Et bah c'est parti du fait exactement ça nous rajeunit pas hein, Christophe hein.
Ah effectivement ouais je crois que je non mais ça change pas je resterai le plus vieux quoi.
Mais non c'est dans
ça,
la tête
y a rien qui change là
et dans les cheveux
et donc bah, l'objectif si tu voyais mes cheveux aujourd'hui. C'est d'échanger entre nous sur plein de sujets qui nous intéressent en étant principalement curieux. Donc, en général, on fait des émissions d'environ 2 heures. Là, l'équipe de Podren a gentiment accepté de nous accorder 10 minutes de plus qu'il y a 2 ans. Donc, on a 1h30 devant nous. Et bah, merci à vous d'avoir maintenu cet événement et puis de nous avoir conviés encore une fois. Vous avez eu l'occasion peut-être, si vous étiez là dans la pause déjeuner, d'écouter Kenkyu, qui est le groupe d'une partie de l'équipe de l'Anthropod avec Season qui partageait. Donc en tout cas, merci à vous tous. Et puis bah, comme on n'a qu'1h30, on va pas perdre trop de temps. Je vous propose qu'on commence directement avec une première rubrique qui sera la rubrique de Marius.
As-tu vu les belles quenouilles? Les belles quenouilles dans le marécage? As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu? As-tu vu?
Bordel de merde.
C'est toujours aussi magique.
C'est qu'on l'entend pas souvent, donc on le redécouvre à chaque fois. C'est toujours un bonheur. Hein.
Les belles quenouilles.
Ouais. Et donc, Marius, de quoi nous parles-tu?
Eh bien, moi, je vais vous parler donc du groupe Pinball, qui vient de sortir un album. Donc, si tu peux lancer la petite musique qui doit normalement accompagner ma chronique et m'aider dans mon allocution. Donc, voilà. Donc, moi, je vais vous parler de Pinball. Donc, alors, c'est tout con parce que tout commence par un mail, hein, oui, un simple mail qui normalement aurait dû être filmé par mon bloqueur de spam, mais là rien, il laisse tout passer dans foire-muche, les crédits à taux zéro, les demandes de femmes qui n'attendent que moi sur des sites peu recommandables, mais je te jure Nanette que j'ai pas traîné sur trouloulou.com, hein, c'est pas moi, c'est forcément une erreur, ou au pire aller, le chat avec ses petites papates qui s'est baladé sur la tablette, mais là, un simple mail. Pinball. Alors là où normalement je jetterais directement à la poubelle ce genre de courrier, eh bien je l'ouvre et je me dis, abruti, on va certainement essayer de te refourguer un vieux flipper des années 70 qui vient directement des USA si tu mets tes 16 chiffres de ta carte bleue, mais que tu ne verras jamais arriver. Enfin, une grosse daube, mais non, un simple courrier. Et la curiosité me prend, et elle a raison de me prendre. Le courrier commence comme ça. Bonjour, je vous envoie ce mail car vous faites partie de ma mailing list Alex Stewart Music et que vous seriez peut-être intéressé par ce nouveau projet. Si ce n'est pas le cas, acceptez toutes mes excuses et désabonnez-vous tout de suite. Alors, premièrement, Alex, qu'on soit clair, je me suis jamais abonné. Deuxièmement, je ne me désabonnerai pas. Et troisièmement, je pense que tu as bien eu raison de m'envoyer ce mail. Alors, à l'intérieur, quelques phrases vantant la sortie prochaine d'un album, un lien donnant sur un clip, et je pense que mon erreur vient de là. L'erreur qui te fait mettre le doigt dans l'engrenage, qui vous happe d'un trait aux premières notes de musique quand vous appuyez sur ce fameux lien. Car oui, une fenêtre s'ouvre, le clip commence, une route qui défile, les instruments qui viennent petit à petit les uns après les autres, ça commence par la guitare d'Alex Stewart, très douce, la basse de Ben Body qui vient ponctuer de petites touches, une batterie domptée par Simon Clavel vient donner le rythme à tout ça et il reste un instrument, vous entendez, celui du violon de Melissa Cox qui tout doucement vient s'encastrer dans le décor qui défile. Ah, il est tout simple hein, le clip, Une route désertique, certainement en Australie, d'où est originaire Mélissa et Alex. Et ça roule lentement, très lentement, terriblement lentement, sur cette musique que vous entendez en fond avec une basse batterie française, monsieur, attention. Le mélange franco-australien a du bon. Eh bien oui, moi, je l'avoue, j'ai été aspiré littéralement au point de précommander l'album qui est sorti fin mars. Un mail, un clip vidéo, et me voilà hameçonné littéralement. C'est du délice pour les oreilles. Pour s'échapper de ce confinement, vous vous installez tranquille, vous lancez Pibolo casque, et c'est parti pour une évasion dans les grands espaces sur des routes mythiques à l'aide de cette musique. La nature fait bien les choses, et bien la rencontre entre certains musiciens français et australiens donne également parfois de la magie. Et il s'en dégage de la magie tout au long des morceaux quand ces quatre-là sont ensemble. Une partition, un soupçon d'improvisation, une grosse part de talent, et ce sont 10 morceaux post-rock instrumentaux qui en ressort. L'intégralité de l'album, écoutez-moi bien, a été enregistrée en live en une après-midi. Nous avions le désir de garder une musique fraîche pour laisser l'émotion de l'instant prendre le dessus, explique Stuart. Tu m'étonnes. Chacun apporte sa note, sa légèreté, qui donne des envolées sur certains morceaux. Sky, que vous écoutez en ce moment, en est le parfait exemple. Une montée progressive qui atteint son apogée au bout de 3 minutes. Mais le morceau est court, 4 minutes 25, on en redemande, c'est trop peu quand on est accroché. Et que dire du morceau Pinball, sur l'album Pinball, joué par le groupe Pinball. Là, un morceau encore trop court, 2 minutes 18, mais en constante progression. Tout au long, je le dis, trop court morceau. C'est limite de la torture musicale, vous n'avez pas le droit de nous faire ça, faut en donner plus. Ah, ils sont malins, hein, ces musiciens, en donner un tout petit peu pour créer un manque. Mais je vous rassure, il y a des longues balades propices à vous faire voyager au volant d'une décapotable, avec quoi la radio ? Bah, Pinball, bien sûr. Et je peux vous assurer que le plein fait, vous n'aurez plus envie de vous arrêter. Un album sans paroles. Mais que viendraient faire les paroles quand la musique vous saisit les tripes, vous tire de votre morosité, de cette envie de voyage qui nous tient tous en ce moment ? Les grandes plaines du Nevada, les routes vallonnées de l'Utah, les longues, très longues routes sans fin australiennes. Et c'est un peu tout ça que vous aurez en écoutant cette musique. Je recommande vivement cet album qui, comme vous avez pu l'entendre, m'a fait beaucoup de bien et m'a inspiré pendant ce confinement. Juste une petite parenthèse pour parler d'Alex Stuart, car cet album m'a fait découvrir également ce génialissime jazzman, parce que le départ vient du jazz, et ses albums solo comme Aftermath, Place to Be et Weave, tous trois multi-récompensés. Il n'y a rien à jeter. En solo, sa musique vous accroche pour ne plus vous lâcher. Alors, pour revenir à l'album Pinball, ça coûte 7€ en achat à Bandcamp. Et vu les durs temps à venir pour les musiciens, je pense que ça pourra faire un geste pour eux. Voilà les amis, je vous rends l'antenne. J'espère que ça vous a plu. C'était bref, court, mais ma foi bien.
Oh, en tout cas, ça a l'air vraiment sympa.
C'est enfin,
moi,
énorme.
J'aime beaucoup, en tout cas.
Enfin, c'est vraiment vrai. Mais je savais très, que ça te plairait. Ouais. Je savais très bien que Christophe serait friand de. Et même
c'est
découvrir...
le genre de musique, effectivement, qui m'interpelle.
Mais pas que
elle
Christophe.
Peut elle peut t'emmener. Enfin, moi, j'ai écrit tout ça. D'une traite, un peu comme eux, on fait l'album en une demi-journée, on est un peu dans le même sens, tu vois. Mais à écouter, en fait, tous les mots se sont couchés tout seuls, tellement c'est inspirant, tellement ça fait du bien, et ouais, je pense vraiment aux personnes qui sont confinées. Avec un disque comme ça, vous pouvez vraiment vous faire du bien, en fait.
Par contre, il y a une remarque qui m'interpelle.
Oui,
tu aurais été étonnant. Il y a une remarque qui m'interpelle. Ils ont enregistré ça en une après-midi. Ce serait bien que. Ouais. Ce serait bien que Ken Kiyou en prenne de la graine, quoi. Oh, je déconne.
Oh, c'est beaucoup de discours. Voilà,
t'as tellement raison.
Toi le premier, vas-y. Après vous, monsieur.
Mais voilà.
Allez, vas-y. C'est super, Marius, parce que je comprends que t'aies été limité dans ton coup de cœur la semaine dernière, enfin, au dernier, que seulement une minute pour en parler, quoi.
Ouais, bah oui, ouais, c'est clair. C'était beaucoup pour exprimer tout ce que cet album m'a apporté et me fait ressentir. Et comme la petite parenthèse, même Alex Stuart en solo, c'est dans la même veine, quoi. C'est plus jazzy. Moi, je veux pas en parler. Je vais me pisser dessus, donc j'adore.
Est-ce que c'est pas le genre d'album que t'écoutes, peinard sur un transat dans ton jardin en lisant un bon bouquin?
tout est là. C'est ce que j'allais dire. Le mieux pour l'écouter, c'est dans ton jardin, sur un transat, en lisant quelque chose. Putain.
Ouais. Oh, c'est, vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est beau, ça.
Rien ne vaudra un bon Pierre Bachelet et le marionnettiste, quand je dis quand t'es dehors, dans le jardin. Ça, tu pourras me dire ce que tu veux, mais...
Ouais, le confinement, vraiment pas, Ludo. Hein.
En tout cas, le bouquin viendra après, vous allez voir.
Ah, tu vois.
Ah, bon, bah voilà, Pinball, le bouquin de Christophe, et nickel, on est sorti.
Voilà, c'est ça.
Comment ça ? Attends, rappelle le groupe.
Je profite un petit peu de.
Pinball, ouais.
Pinball. Ouais. D'accord. Ok, je note Pinball.
Pinball, sur un album qui s'appelle Pinball et un morceau qu'on a entendu qui s'appelait Pinball.
D'accord.
C'est excellent.
Tout à fait. J'en profite pour passer un petit message aux gens qui nous suivent en direct sur le chat, parce qu'il y a quelques personnes qui sont là en direct. Il y a 70 personnes là,
ah bon,
qui sont sur le chat. Donc, bonjour à tout le monde sur le chat de Twitch, si jamais vous nous suivez, le Twitch de Bad Geek. Alors, coucou à tous, on n'a pas forcément le temps de vous répondre, mais en tout cas, merci de nous suivre. On va passer à la rubrique suivante, et là, c'est une rubrique de quelqu'un qui n'est pas au micro de suite, puisque c'est.
Est-ce qu'on peut baisser son casque ?
Nous a laissé une petite pastille. Ah, dis-nous.
Je déconne.
Je lance son jingle, en tout cas.
Vous rempliez bien la tarte au poil, une fois ?
Moi, oui. Hein.
Et putain, mais bon, ça touche pas. Faut une soirée de fromage blanc ou des massages à l'huile d'olive.
Et donc Didouille, bah, elle ne pouvait pas forcément être à côté de nous, notamment pour des raisons techniques, hein, parce qu'on n'a pas forcément le matos, mais elle nous a quand même envoyé un petit enregistrement sonore, donc elle nous a fait une petite rubrique pour nous aider à nous amuser, à nous occuper pendant ce confinement et nous passer un petit coucou au passage. Donc je vous passe ça tout de suite.
Salut les copains de Podren, salut les copains de l'Entrepod. J'imagine, Nico, que tu m'as présenté, hein ? Hello, Didouille. Didouille qui vous fait une petite capsule audio, même si l'exercice n'est pas trop facile pour moi, j'avoue. Tout simplement parce que je voulais être avec vous. Voilà, j'ai décidé de vous présenter une petite capsule que j'ai intitulée « S'amuser comme des confinements ». Voilà. Non, pas de jeu de mots. Non, je ne cherche pas. Ce n'est pas vrai. Je ne cherche pas à faire de l'ombre à Monsieur Frégin. Ce n'est pas vrai. Je dis ça avant qu'il se venge au prochain enregistrement de l'Entrepod. Voilà. Alors, en ces temps de confinement, le télétravail est le maître mot pour tous ceux qui le peuvent. Hein. Pour ma part, c'est enseignement à distance. Hein, pas évident à gérer tant pour les enseignants que pour les parents. Et oui, alors je les plains particulièrement, hein, parce qu'ils doivent à la fois s'organiser pour allier travail professionnel, gestion quotidienne familiale et continuité scolaire avec leurs enfants. Oh, comment ne pas péter un câble, hein ? Et puis en plus, là, bah, on vient d'annoncer l'allongement du confinement. Alors, va falloir rebooster les enfants, les motiver pour travailler, gérer à nouveau le boulot. Bref, on a envie de souffler, non ? Alors, voilà, moi, je vous propose un petit moment de partage familial ou même individuel. C'est comme vous voulez. Alors, pour ça, je vais vous parler d'une idée géniale parmi d'autres qui circule sur les réseaux et que j'ai testée avec mes parents d'élèves et mes petits loulous. Voilà le concept. Recréer un tableau de maître de chez soi. C'est ce qu'a fait le personnel confiné du musée Getty de Los Angeles. Et il a lancé cette idée. Et sur Instagram, vous pourrez admirer les tableaux qu'ils ont recréés. C'est follement créatif, amusant et parfois bluffant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le groupe Hold Your Horses, qui avait fait un clip sur le titre 70 Million, en partant de ce concept. 25 tableaux de maître y sont représentés et c'est franchement très drôle. Alors, pour que vous ayez un aperçu, parce que j'avoue que ma capsule n'est pas très radiophonique, je compte sur mon maître Nico pour faire en sorte que vous puissiez ensuite avoir les liens, notamment celui sur YouTube pour pouvoir aller voir ce fameux clip dont je viens vous parler. Et également, allez voir sur le site de artsinthecity.com tous les tableaux que le personnel du Getty Museum ont créé. Et vous allez voir des exemples très drôles. Et franchement, si vous êtes un tantinet joueur, je pense que vous pouvez relever haut la main le défi. Alors, vous allez en plus passer un super moment familial et vous verrez à quel point votre imagination et votre créativité, ben, finalement, sont débordantes, voire épatantes. Voilà, c'est le mot, épatante, parce que moi, personnellement, pour avoir reçu des tableaux de mes élèves, j'ai été, mais alors, scotchée, c'était absolument génial. Je vous explique le principe très brièvement. Vous cherchez, alors sur Google Art ou parce que vous avez une culture artistique suffisamment développée, pas comme la mienne, hein, suffisamment développée pour avoir une idée du tableau que vous voulez recréer. Une fois que vous l'avez trouvé, une observation est nécessaire hein, pour aller voir les petits détails et les couleurs. Et à vous de vous lancer pour essayer de le recréer avec ce que vous avez chez vous. Voilà, il est hors de question, bien entendu, de prendre de la peinture et essayer de le faire. On n'est pas, c'est pas un jeu de faussaire hein, non plus. Hein. Et tout le monde n'est pas peintre qui veut. Mais par contre, vous allez vous mettre en scène et utiliser ce que vous avez chez vous pour essayer d'être le plus fidèle possible à cette œuvre d'art. Une fois que c'est fait, et bien vous prenez une photo. Et comme cette année, à cause du confinement, nous n'avons pas pu être en présentiel et partager des choses avec d'autres membres, avec d'autres podcasts, moi, j'avais envie de vous lancer ce petit défi. Donc, à tous ceux qui feront une émission au sein de Podren, je vous demande donc de choisir une œuvre d'art et de recréer la vôtre. Et puis, vous lancez les photos et vous les envoyez à Podren pour faire un retour sur ces moments passés ensemble. Ça peut être donc une petite capsule souvenir du coup, une capsule souvenir du Podren réalisée en confinement. Voilà, c'est juste une suggestion, mais franchement, ce serait et sympa pour les copains de Podren qui se sont démenés pour faire en sorte que ça continue, que ça se maintienne. Et puis, un moment sympa pour tous les membres des podcasts présents pour faire son petit billet de retour à Podren. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. Hein. J'embrasse mes potos de l'entrepode aussi également. Hein. C'est vrai qu'il me manque. Hein. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'espère que tout se passera bien au niveau des émissions. De toute façon, j'aurai une oreille quelque part dans la maison pour vous écouter. Et puis, surtout, portez-vous bien. Protégez-vous, protégez les vôtres. Respectez les gestes barrières. Je vous fais des gros bécos et à très, très, très bientôt. Voilà, bisous!
Bisous.
Voilà pour Didouille, qui n'était pas là, mais qui était quand même un petit peu là, quoi. Alors, si tu nous écoutes, Didouille, puisque tu disais que tu avais peut-être une oreille, on te fait des gros bisous aussi.
Et puis, tu as eu un petit message sur le chat de la part de Gecko, je ne sais jamais comment on dit, Aude, qui dit, dis donc, elle nous file des doigts, la Didouille. Et il y a Pinge Magique qui répond, mais oui, des formations professionnelles. Effectivement, ça te poursuit.
Très bien. En tout cas, c'était très sympa de nous faire ce petit clin d'œil, cette petite pastille pour qu'on puisse effectivement être quand même un petit peu là, même si effectivement, on peut pas se faire des bisous, on peut pas se boire un coup ensemble, mais ça viendra.
Ça c'est con, ça.
En tout cas. Ah oui, n'est-ce pas hein. C'est un petit peu galère. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ce que nous a dit Didou, là, ou si on passe direct à la suite.
Bon, on va à la suite.
Visiblement. Visiblement. Alors, si vous cherchez. Vas-y, dis, vas-y, Starlet.
Je
ne
sais plus comment s'appelle le tableau de.
Ah, je ne sais plus.
Ah, merde. Bon, je ne sais pas. Je vais passer pour une inculte. Ce n'est pas grave. Je suis lancée. Je ne peux plus faire marche arrière. Steve Baker, donc un de nos fidèles invités de l'entrepode, a fait le principe, en fait, de recopier un tableau. C'est celui avec tous les fruits dont j'ai oublié.
Archimboldo.
Oui, c'est ça, absolument. Donc, il a juste mis une banane devant son oreille, un avocat dans son cou. C'était super drôle. Voilà. Mais je crois qu'il fallait le voir. Ça marchait mieux en oui. voyant.
Oui, effectivement. Ouais.
Non, mais c'est... On découvre la radio, hein, donc on ne se rend pas trop compte de ce qui marche ou pas. Donc c'est pour ça qu'il faut nous excuser. Faut nous excuser. Non, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez de partager, de participer à la proposition de Didouille, foncez et bah, on relayera hein, s'il y a besoin. Voilà. Et bah, moi, sans autre, je vais vous présenter ma rubrique, les fonds de tiroir.
Et bienvenue parmi nous à nouveau. Alors, touche à ton cul. Daco, daco, chabou, tadouti.
Alors, dans mes fonds de tiroir, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur. Si vous étiez là à Rennes en 2018, quand l'Anthropode avait participé pour la première fois, j'avais présenté The Leftovers. Donc, The Leftovers, si vous vous souvenez bien, c'est une série qui venait à l'époque de se terminer, ou depuis très peu de temps, en fait. Ça faisait peut-être 2-3 mois que c'était passé. Et là, je retourne 20 ans en arrière aujourd'hui pour vous présenter une série qui s'est déroulée de 2002 à 2008. Et la série, c'est une série qui fait partie du panthéon de mes séries favorites. Hein. Et puis, comme je viens de la voir, je confirme cette impression. C'est même peut-être ma préférée, en fait. J'ai besoin de la souris. Et en fait, cette série, ça fait très longtemps que je voulais vous en parler. Si vous connaissez, c'est quelque chose qui devrait vous dire quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous avez reconnu de ce dont je vais vous parler parmi mes camarades sur le chat.
Il y en a un qui a dit
The
Shield en bas, là, Yannick. C'est ça?
En bas? Ah, je ne regarde plus le chat. Donc c'est exactement ça. C'est la série The Shield. Donc, une série de Sean Ryan. Donc, c'est une série que j'avais vue lors de sa diffusion dans les années 2000. Hein, comme je disais, c'était 2002-2008. Mais qui n'a cessé de me rappeler depuis. À chaque fois, j'avais qu'une envie de me dire tiens, je vais la relancer. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai relancé il y a un an, quasiment mois pour mois. Hein, et je l'ai terminé cette semaine, il y a deux jours. Hein, donc, c'est encore très, très chaud dans ma tête. Donc, quand je dis qu'elle n'a cessé de me rappeler, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres séries que je regardais et qui me rappelaient toujours cette série, que ce soit Dexter. Parce que Dexter, avec ses ambiances latino, toutes ses meurtres, etc. Mais pour moi, c'était trop propre et esthétisant, Dexter. Je ne peux jamais trop rentrer dedans. Breaking Bad aussi, forcément. Breaking Bad, ça m'a rappelé The Shield, l'aspect descente aux enfers. Mais là encore, toutes ces séries, avec leurs qualités, n'avaient que comme conséquence de me faire dire « j'ai trop envie de revoir The Shield ». Vous savez, c'est un peu ces séries qui vous marquent et dont vous restez imprégné pendant plusieurs heures après avoir fini de regarder un épisode, voire même pendant plusieurs années. C'est mon cas, en fait. Donc, à titre personnel, hein, c'est peut-être ça ne marchera pas pour tout le monde, mais je ne connais pas beaucoup de séries qui vous embarquent dedans, au sens propre, hein, à ce point-là. La réalisation et la mise en scène qui vous impliquent vraiment dans l'action et dans la vie des protagonistes qu'on suit. Alors, pour être tout à fait franc, je ne sais pas si je la conseillerais et je la recommanderais à tout le monde. D'ailleurs, Delphine, qui est à mes côtés, n'avait pas été jusqu'au bout de la série parce que c'est vraiment stressant et très, très oppressant. Ça peut être très dérangeant, hein, d'ailleurs, à regarder de temps en temps, vu les thématiques abordées, qu'il s'agisse de violences verbales, physiques, psychologiques, nerveuses. C'est très violent et explicite visuellement. Donc voilà, il n'y a rien qui est caché. Il n'y a quasiment pas de tabou dans les choses qui peuvent être montrées à l'écran. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait sa force selon moi. Alors l'histoire, pour ceux qui ne connaîtraient pas The Shield, The Shield, c'est une série qui se passe sur fond de guerre des gangs un peu à Los Angeles, dans le quartier de Farmington, qui est un quartier fictif, hein, il n'existe pas à Los Angeles. Et c'est une série qui est inspirée du scandale Rempart qui a touché une unité anti-gang de la police de Los Angeles il y a quelques années. Donc, dans cette série, on suit la spirale infernale et la descente aux enfers de la Strike Team. Donc la Strike Team, c'est la brigade de choc, hein, en français. Donc et moi, de ce point de vue-là, la descente aux enfers et spirale infernale à côté, pour moi, Breaking Bad, c'est presque de la gnognotte niveau tension et intensité, quoi. Parce que ça, vraiment, c'est très très stressant. Donc le chef de la Strike Team, c'est Vic McKee. Donc Vic McKee est un Et donc, à la tête de la brigade de choc, et il a des méthodes pour combattre le crime qu'on considérera comme peu conventionnelles, hein, puisque à base de brutalité, corruption, meurtre, donc moyen, en fait, on va dire. Par contre, c'est très efficace. Donc finalement, il flirte très régulièrement avec la limite entre la justice et puis les criminels qu'il doit suivre, puisqu'il utilise souvent les mêmes techniques, malheureusement, que ceux qu'il doit pourchasser. Donc son équipe, c'est Curtis Lemansky, dit Lem, Ronald Gordoki, qui s'appelle aussi, qui est souvent appelé Ronnie, et Shane Vandrell, donc le gars du sud des États-Unis avec toute la caricature qui va un petit peu avec, malheureusement, toute la série. Donc dans cette série, avec cette équipe, la fin justifie les moyens, que ce soit les alliances de circonstances qui entraînent un petit peu tout le monde dans leurs embrouilles, les magouilles avec les chefs de gang et les différentes mafias. Et donc Vic doit composer avec ses collègues corrompus, mais aussi ceux qui sont intègres. Et il y a une espèce toujours de jeu de chasse du chat et de la souris, en fait, parce qu'il est régulièrement soupçonné par son entourage professionnel et personnel d'être un petit peu justement trop borderline. Mais pour ça, il utilise un mensonge pour en cacher un autre, etc., etc. Alors qu'en fait, lui, c'est finalement à la fois la solution et le problème dans nombreuses situations du quartier, voire même de la ville, ou encore de chaque côté de la frontière avec le Mexique. Donc, il invente toujours, il trouve toujours quelque chose de plus gros pour cacher ses méfaits. Et on se dit que ça n'a pas marché, que le piège va se refermer sur lui. Jusqu'à quand ? Voilà, c'est un petit peu ça le but de la série. Donc, il divise pour mieux régner, il monte les uns contre les autres, il tire les ficelles pour son propre compte. Pour l'histoire, j'en dévoilerai pas plus pour ceux qui voudraient se lancer dans la série, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à en dire. Je pourrais en parler pendant des heures. Mais ce qu'on peut dire, sans rentrer dans le détail du scénario et des ficelles, c'est que Vic est aussi un être humain, donc père de deux autistes, ce qui fait qu'il justifie ses actions illégales et ses prises d'intérêt par le besoin qu'il a de subvenir aux besoins de sa famille. Donc c'est quelqu'un qui est toujours à faire des mauvaises actions pour de bonnes ou de mauvaises raisons, en fonction du sens des choses. C'est que de temps en temps, on lui fait des remarques, vous avez des principes ? Il répond, oui, j'en ai quelques-uns quand même. Ce n'est pas quelqu'un de complètement amoral, mais aussi il fait des mauvaises actions pour de très mauvaises raisons, et lui-même le reconnaît dans un épisode en disant « J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire pour des raisons qui semblaient logiques, mais qui sont dures à défendre maintenant. » Donc en fait, il a une morale à géométrie variable, ce qui fait que parfois on est avec lui, on a envie qu'il s'en sorte, et d'autres fois on voudrait qu'il paye parce que c'est quand même vraiment une belle saloperie, quoi. Donc je résumerai un petit peu leur fonctionnement par une phrase de Ronnie, donc un de ses adjoints, qui dit « Tout ce qu'on fait pour s'en sortir nous enfonce davantage. » Et donc voilà un petit peu pour résumer la trame un petit peu globale de la série. Alors c'est une série qui est très marquante, comme je vous l'ai dit, hein, si j'y suis revenu, c'est qu'elle m'a vraiment très très impressionné. Plus de 10 ans après, je me souviens quasiment de tout. J'ai eu un petit moment où je me disais, tiens, je me souviens plus trop de ce moment-là, mais sinon tout l'ensemble m'a marqué. Et surtout, c'est la fin de la série. Je crois que j'ai jamais vu une fin de série qui m'a autant marqué. Je me souviens très bien de la fin, la première fois que je l'ai vue, où je l'ai vue, la manière dont je suis resté hébété pendant plusieurs instants, voire même plusieurs heures. Et je peux vous dire que la revoir une deuxième fois, c'est pas plus facile à encaisser. Il y a notamment un plan de 2-3 secondes dans l'avant-dernier épisode qui retourne complètement le spectateur émotionnellement, et puis dans la série aussi, dans la trame. Voilà, on sent que la fin, ça approche. Voilà, c'est comme ça. Ça explique aussi pourquoi j'avais déjà eu des discussions avec Ludo. Pourquoi la fin, moi, de Six Feet Under, qu'on m'avait dit, qui était une fin extraordinaire, elle m'avait paru finalement assez banale et fade. Parce que je l'ai vu quelques temps après et j'étais encore sous le coup de cet épilogue finalement de The Shield.
Attention à ce que tu vas dire quand même.
Le contexte joue vachement, en fait, oui. C'est ça. Si j'avais vu dans l'autre sens, ça aurait peut-être été très différent.
Si j'ai pas vu The Shield, donc effectivement, de toute façon, je peux pas comparer.
Donc, alors après, c'est des thèmes très différents. Hein, on va pas comparer ce qui n'est pas comparable. Je veux dire, j'avais tellement cette espèce de top en tête que après, effectivement, j'ai souvent l'impression que toutes les fins de série maintenant me paraissent un peu fades et banales, pour rien cacher, en fait. Donc c'est une série qui est très marquante, et je trouve qu'effectivement la tension est permanente tout au long des saisons. Il n'y a aucune saison faible pour moi, toutes les saisons sont vraiment du haut du panier, c'est assez dingue. Et ce que j'aime bien surtout, c'est qu'elle a plusieurs niveaux de lecture et de narration. C'est tout ce que j'aime, en fait, que je retrouve là-dedans, avec des enquêtes policières classiques, donc qu'on peut retrouver dans n'importe quel truc d'interrogatoire, hein, qui présente de nombreux travers de la société à travers des enquêtes, avec des gens tordus, avec tout ce qu'on peut bien retrouver. Alors forcément, de temps en temps, c'est drôle, les histoires sont drôles, mais aussi des fois, ça peut être touchant. Par contre, c'est souvent quand même glauque et assez dur. Un autre niveau de lecture, c'est finalement la vie dans un commissariat de banlieue. eux avec ses problématiques internes et quotidiennes, donc la rivalité qu'on peut y retrouver, les amours, la haine qui se créent. Par exemple, quelle est la vie des flics dans ce contexte, hein, notamment, j'ai évoqué tout à l'heure la vie de Vic avec ses deux enfants autistes. On a forcément le fil rouge de la Strike Team, donc toutes leurs aventures qui arrivent tout au long de ces épisodes. Les aspects de corruption, de rapport de force, de problèmes budgétaires, de politique qu'on peut avoir quand on est dans ce type de contexte. Et puis surtout, il y a beaucoup de sujets sociaux et sociétaux propres aux États-Unis, mais pas seulement. Par exemple, toutes les problématiques liées au système scolaire, au système médical et hospitalier, le manque de moyens dans la police, le communautarisme, les problématiques de peine de mort, l'homosexualité et le racisme, les inégalités sociales avec... le gros contraste qu'on peut voir régulièrement entre la vie dans des quasi-bidonvilles et à côté la vie de gens plus riches et plus nantis. Et puis entre deux, les familles modestes qui, sans pour autant être pauvres, ne peuvent pas se payer des soins et des écoles adaptées. Donc tout ça est abordé sans ni angélisme ni dogmatisme. On ne dit pas il y a les gentils puis il y a les méchants. Personne n'est tout noir ou tout blanc. C'est vraiment une approche assez impressionnante, je trouve, sans vraiment porter de jugement, en fait, finalement. C'est ça que j'aime bien. Sur la forme, c'est une série aussi qui est très marquante, je trouve. Dès le premier épisode, on sait qu'on n'est pas dans une série policière comme les autres. Et on reconnaît immédiatement The Shield, quand on l'a vu, par rapport à une autre série classique qu'on pourrait trouver d'interrogatoire policier. The Shield, on la reconnaît tout de suite, notamment grâce à sa mise en scène, que moi je trouve formidable. Caméra à l'épaule, avec une caméra nerveuse qui est rarement fixe, toujours en mouvement. On a très très peu de champ contre champ. On a souvent la caméra qui s'attarde régulièrement sur l'arrière-plan, sur des personnes au second plan, c'est cadré de loin, derrière une fenêtre. Ça donne l'impression qu'on est dans l'action, en observation, un peu avec le regard qui part selon la curiosité qu'on pourrait avoir si on était sur les lieux sur lesquels ça se déroule, en fait. Ça se passe dans des décors réels, donc dans des extérieurs, dans des quartiers, des vrais quartiers. Ça ne fait pas carton-pâte du tout. Le Xeria, qui s'appelle le Bercail, c'est une ancienne église, ça donne aussi un cachet particulier et une couleur assez particulière. On n'est pas dans une architecture de commissariat classique. Aussi, rien n'est embelli dans cette série. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de faire que ça soit plus beau que nature. Les voitures, par exemple, elles sont tout le temps poussiéreuses et crasseuses. Les flics, quand ils ont pris des coups, ils ont des cicatrices qui leur durent pendant longtemps. Ils peuvent être vraiment choqués émotionnellement et ça se voit. C'est vraiment l'inverse du côté esthétisant de Dexter, moi qui m'avais laissé à l'extérieur, par exemple, ou de temps en temps, où tout reste un peu propre, quoi. On a une ambiance musicale qui est hip-hop, un peu métal, hein, vous l'avez entendu dans le générique, donc moi ça fait aussi pour me parler forcément. Et puis je trouve que cette série n'a pas forcément vieilli, hein, 18 ans après sa première diffusion, ça pourrait paraître actuel à la fois sur ses thématiques et même sur la façon dont elle est tournée. Forcément le grain de l'image a un peu vieilli, c'est du 4 tiers. À l'époque, Internet n'était pas forcément grand public, il n'y a pas de smartphone. Mais malgré tout, je trouve qu'on ne se dit pas « ouais, ça fait très daté comme d'autres séries qu'on pourrait retrouver ». À peu de choses près. Les acteurs sont pour moi formidables, que ce soit les acteurs principaux, qui sont tous parfaits dans leur rôle, même les têtes à claque, et justement les têtes à claque. Je parlais de Shane Vendrell, c'est vraiment une ordure pourrie qu'on a envie de défoncer, vraiment, mais il le joue tellement bien que c'est assez impressionnant. Et dans le documentaire, dans le DVD, en fait, j'ai le coffret DVD, il y a un commentaire audio où ils évoquent en fait que lors du casting, certains avaient fait des essais pour d'autres rôles. Ça paraît complètement inconcevable maintenant, parce que tellement ils collent parfaitement à leur rôle qu'on se dit « mais comment un tel aurait pu faire tel autre rôle ?» C'est pas possible, ça leur colle vraiment à la peau, quoi. Et on a pas mal de guests, notamment Forest Whitaker, qui joue pendant deux saisons, qui joue un agent de la police des polices, et aussi Glenn Close, qui joue la capitaine du commissariat, et tous les deux sont assez formidables, quoi. Enfin, franchement, ils apportent vraiment quelque chose, ils sont pas juste là pour avoir un nom au générique, c'est vraiment d'enfer. Et puis d'autres acteurs qu'on retrouvera ensuite dans d'autres séries à succès, donc Ray Campbell, qui jouera aussi dans Breaking Bad et qui joue dans Better Call Saul, Laurie Holden, qui est dans The Walking Dead, Danny Pino, qui est un des inspecteurs dans Cold Case, Silas Weir-Mitchell, qui joue dans Prison Break, vous savez, c'est celui qui est un peu fou, là, un peu schizo. Voilà, donc c'est assez impressionnant, je trouve, d'avoir des acteurs de si haut niveau partout dans la série pendant cette saison. Donc pour l'anecdote, ce qui est assez marrant, c'est que Michael Chiklis, qui est Vic McKee, a aussi joué dans la série Gotham. Et dans cette série, il incarne le rôle d'un commissaire hyper respectueux de la loi et l'ordre, donc l'exact inverse, quasi rigide. Et je me suis demandé si c'était un clin d'œil exprès d'avoir pris ce personnage-là pour jouer un rôle complètement à l'opposé de celui pour lequel il s'était fait connaître, en fait. Et donc pour terminer, ça nous fait une série de 7 saisons, 88 épisodes de 45 minutes, qui est forcément disponible et en VO et en VF. Moi, j'avais vu la VF dans les années 2000, puis j'ai revu maintenant en VO. La VF est vraiment pas mal. N'hésitez pas à la regarder en VF si vous êtes hermétique à la VO. Contrairement à d'autres, elle rend hommage vraiment à la série, au matériau d'origine. Et puis, si vous voulez la regarder, pour les copains, quand on se recroisera, je pourrais vous prêter le coffret. Elle est disponible à l'achat, je crois, sur YouTube et sur d'autres plateformes. Et sinon, si vous êtes abonné Amazon Prime, les 7 saisons sont disponibles sur Amazon Prime. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette série. J'aurais pu en parler pendant des heures, mais c'est vraiment une série qui me... j'ai la chair de poule rien que d'en parler. C'est clair.
Ouais. Amazon, nickel. J'allais te demander où est-ce que vous pouvez la trouver, donc top.
Tu t'es tapé 66 heures de The Shield en combien de temps, là, du coup ?
En un an, j'ai commencé l'année dernière en mars. Mars 2019.
Donc, disais 7 saisons, c'est
7
ça ?
7 saisons.
De combien d'épisodes
ça fait 88 épisodes, donc ça va entre 10 et 14 épisodes par saison, en fait. Ils ne sont pas tous équilibrés. Ouais. Mais par contre, tu vois, ça fait un an que ça m'accompagne quasiment toutes les semaines. Je regarde 2-3 par semaine. Donc là, le fait que ça soit fini, à la fois la fin qui est vraiment très marquante, mais aussi le fait que je l'abandonne une deuxième fois, en fait. Tu vois, là, je ne vais plus avoir mon petit rituel toutes les semaines de regarder The Shield. Et c'est vraiment, comme j'en avais parlé pour Battlestar Galactica ou d'autres séries comme ça, le fait que ça se termine, ça ne me le fait pas pour toutes les séries, mais celle-ci, je sais qu'elle va me manquer, c'est clair.
Bah, tu te remettras à voir, comme d'habitude.
Moi, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Donc, j'espère que je vous ai donné envie. Je sais pas si.
Carrément, je vais la chercher tout de suite, tiens.
Je préviens quand même, les âmes sensibles, si Breaking Bad c'est trop stressant ou des trucs comme ça, ça risque d'être un cran au-dessus encore.
T'as entendu Nanette ? Tu vas aimer, tu vas voir.
Moi, je sais que j'ai arrêté en cours de route parce que vraiment, c'est super trash, mais j'avais bien aimé justement ce dont tu parlais, le concept un peu caméra à l'épaule, où les angles sont très bien choisis. Effectivement, tu assistes à des scènes derrière une fenêtre, t'as l'impression de faire partie du décor, en fait. C'est vraiment bien foutu. C'est pour ça que ça te met aussi dans une situation où tu te dis, merde, je devrais pas être là. Enfin, c'est bizarre, tu ressens des émotions, je trouve, bizarre à regarder cette série.
Oui, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est parfois, il y a presque de l'humour parce que les situations sont cocasses. On a des gens qui vont au commissariat un petit peu comme en dernier recours, comme on voit, ils ont besoin de parler ou des choses comme ça. Et puis à côté, ils vont côtoyer des gens qui sont les pires criminels de la ville, quoi. Et c'est le contraste qui se retrouve là. Et c'est pas inspiré forcément de faits réels, tout, mais ils se sont inspirés de faits divers qu'ils trouvaient dans les journaux pour les retranscrire scénaristiquement.
Voilà. En tout cas,
voilà ce que je pouvais vous dire sur cette série.
En tout cas, si le confinement dure 88 épisodes, ouais, c'est intéressant, quoi.
Sur une jambe, ouais.
Écoutez, si je vous ai donné envie, tant mieux.
Cette saison, ça fait un peu peur, mais voilà, tout dépend des conditions.
Je pense que si t'es accroché, nous, quand on a attaqué Breaking Bad, on a passé ça en rien de temps, quoi. Parce que...
Ouais, c'est vrai que.
Alors, c'est vrai qu'il y a Arthur Froment qui met urgence en plus loufoque encore. Et c'est vrai que de temps en temps, on peut avoir cette espèce de mélange de cours des miracles qu'on peut retrouver dans la salle d'attente du commissariat. Et ça peut se retrouver un petit peu, mais vraiment beaucoup plus glauque. Je préfère vraiment vous prévenir par rapport à ça.
Sinon, il n'y a pas le Mouf qui a fait le bon calcul. Une saison par jour, ça fait une semaine. Ça se fait.
C'est pas bête.
Voilà. Vous êtes parti pour la semaine. Attendez que Podren soit terminé, puis la semaine prochaine, vous savez comment vous occuper. Christophe, puisque t'étais parti, je te propose de prendre la suite avec une rubrique littéraire, allons-y. Si je ne me trompe pas.
Tout à fait.
Et c'est ça. Et je vais te raconter un exemple que c'est du tout qui s'intéresse. Et c'est ça, je trouve ça important.
De quoi nous parles-tu donc ?
Alors, bien évidemment, d'un roman, forcément.
Mais pour ceux qui ne nous connaissent pas. Hein.
Oui, effectivement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc je vais vous parler d'un roman, mais j'ai eu quelques exceptions par moment, notamment Podren 2018, où j'avais fait une entorse.
C'est vrai.
Donc, j'ai choisi un roman. Choisir un roman un peu léger pour égayer ces journées de confinement. Non. Je vais vous parler d'un roman un peu violent, mais d'une force incroyable.
Ah, tiens, vas-y. C'est cool.
C'est donc le premier roman de Gabriel Talente. Donc, c'est un Américain. Donc, ça s'écrit T-A-2-L-E-N-T. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce en américain. Peut-être que tu pourras nous aider. Mais voilà. Talente, moi, je le prononce à la française.
Très bien prononcé. Comment c'est la définition?
Et donc...
Talent.
Talent. Ouais, c'est ça.
Si c'est Marius qui commence à faire les anglais, les accents anglais, on est mal hein, quand même.
Je suis assez d'accord.
Non, donc,
J'ai opté pour la prononciation française... tout bêtement. Donc, Gabriel Talente, my absolute darling. Donc, il a fait partie des meilleures ventes aux États-Unis en 2017. Il a été encensé par toutes les critiques. Il est sorti donc en France en 2018 aux éditions Gallimunster. Donc, comme je le disais en préambule, c'est un roman atroce et magnifique à la fois.
Après The Shield, ça envoie.
Non, sincèrement, ce livre peut être dévastateur pour toutes les âmes sensibles, justement, car il vous noue l'estomac du début à la fin. Alors donc, je me suis dit, en cette période de confinement, vous êtes bien avachi dans votre canapé, eh bien, ce roman va vous secouer furieusement le cocotier. Parce que franchement, ça secoue vraiment, quoi. Alors, le pitch. Alors, évidemment, cet exercice est toujours difficile parce que rien dévoilé, bien évidemment. Mais ce que je veux surtout, c'est ne pas rebuter la lecture de ce roman que moi j'ai trouvé exceptionnel. Donc, pour le pitch. Alors, passe dans le territoire immense de la Californie du Nord, pardon. Ouvert sur l'océan, sauvage et dangereux, mais on est loin en fait des plages type et compagnie, pas dans cet univers-là. Hein. Cet immense territoire est également couvert de forêts denses et inextricables. Et vous verrez que ce nord a évidemment toute son importance dans le récit, c'est même une donnée essentielle. C'est une sorte de huis clos à ciel ouvert entre un père et sa fille de 14 ans. Son amour absolu. Ils vivent retirés de la ville dans une maison un peu déglinguée, une sorte de cabane rustique faite de briques et de broc. Et la mère, bah, malheureusement, elle est morte depuis un moment et le père, Martin, semble ne s'en être jamais remis. Mais là, il y a encore une petite intrigue que je ne dévoilerai pas. Le père, donc, Martin, écolo un peu tendance sociopathe, élève sa fille à la dure, l'entraîne au tir, à la chasse, et en fait il entend faire d'elle une guerrière prête à survivre, dans n'importe quelle situation, argumentant sans cesse que le monde extérieur est totalement détraqué et qu'il court à sa perte. Pas si loin de la vérité. La jeune fille, donc Julia, de son vrai prénom, parce que dans le roman, elle est surnommée Turtle, Tortue, probablement due à la carapace qu'elle s'est forgée. Elle préfère évidemment arpenter les bois en solitaire, pieds nus, un petit peu à la façon sauvageonne. Pour elle, rester coincée sur les bancs du collège en compagnie d'élèves dont l'univers n'a rien à voir avec le sien est vraiment sans intérêt, quoi. Donc, une certaine ambiguïté un peu opaque entoure cette relation entre le père et la fille, et l'on comprend peu à peu le pouvoir que le père exerce sur sa fille, de la manière dont il la possède, l'aime et la terrorise. Elle est donc sous emprise. Et Turtle, par ignorance, mais aussi par amour qu'elle a pour son père, au regard de tous les efforts qu'il fait pour elle, ne se révolte pas. Et au fil des chapitres, la tension monte d'un cran. C'est vraiment une montée d'adrénaline assez poussée. Car Martin, donc le père, sent que sa fille va prendre le large et s'émanciper. Et bien évidemment, il y a plein de personnages qui vont interagir avec notre héroïne, mais je peux pas en dévoiler plus, sinon... manquerait évidemment d'intérêt. Donc le texte de ce premier roman, de ce jeune auteur américain, est plutôt bien ficelé, puisqu'il alterne, entre le regard objectif, entre son regard objectif, qui ne juge pas, mais qui décortique un petit peu au scalpel et qui décrit de façon un peu glaçante par moment à la façon dont cette relation en fait se vit et parallèlement on assiste aussi au tourment de Turtle qui elle est écartelée entre cet amour qui l'étouffe et la conscience confuse qu'elle a de devoir partir pour survivre. Voilà, je vous cache pas que certaines scènes, on va dire paroxystiques, sont, en tout cas, m'ont littéralement scotché, quoi. Il faut s'accrocher un petit peu quand même, hein. Mais on n'est pas non plus dans le manichéisme, c'est-à-dire que on n'est pas l'innocence d'un côté et le mal de l'autre. L'auteur s'affranchit de tout cela et maintient de la subtilité, de la finesse. Et surtout de la complexité dans les rapports humains qu'il arrive à expliquer et à détailler de façon vraiment magistrale, quoi. Et notamment au travers du père, Martin, qui est quand même finalement un érudit. On pourrait imaginer que c'est un beauf, mais pas du tout, puisqu'il s'adonne, par exemple, lecture de Marc Aurèle. Donc, pour ceux qui ne savent pas... c'est un philosophe romain qui exposait en fait les préceptes à suivre pour atteindre la sagesse et par-delà le bonheur, quoi. Voilà un premier paradoxe en tout cas. Donc finalement, ce roman illustre à travers ce face-à-face les égarements de notre société désenchantée et fracturée. Et puis en toile de fond de ce roman, ça explore aussi un peu les mécanismes de la manipulation. D'abord, le doute qu'on installe, qui lui-même engendre la peur, et ce qui crée l'inaction, la soumission, voire la passivité. Et on retrouve également cette passivité chez certains adultes qui finalement ferment les yeux, ne veulent pas voir, ou si peu. Voilà, mais c'est aussi une ode à la nature sauvage. Donc c'est en ça que je rejoignais un petit peu la rubrique de Marius et sa musique, parce que on est vraiment au cœur d'une Amérique sauvage. Justement, il est fait mention de survivalisme en fait, c'est-à-dire que Turtle, alias Julia, donc est quasiment autonome dans une forêt, elle est capable de tout faire, de se débrouiller vraiment sans personne, sans rien. C'est ce qui lui confère une espèce de force hors du commun, en fait. C'est ce qu'il a. Ouais, voilà, c'est une espèce de machine de guerre, en fait, prêt à survivre dans la nature. C'est ce qui va évidemment, quelque part, lui donner la vie. On peut même, à certains endroits du livre, déceler, alors un petit peu en filigrane, le thème de la destruction des grands espaces par ce consumérisme sans limite, quoi, finalement. Voilà. Pour moi, c'est un roman magistral. Alors, un petit peu à la façon d'un thriller, mais c'en est pas un. C'est également un roman d'aventure, un roman initiatique, où la violence est certes parfois insoutenable, mais la réflexion qui découle de tout ça, elle est vraiment bien plus profonde. La question qui se pose, c'est comment résister quand la résistance semble impossible. Et ça pose aussi le thème de l'amour dans tout ça. Ce mot n'aurait-il pas été dévoyé de son sens? C'est-à-dire, jusqu'où peut-on aller par amour? Et c'est donc aussi, quelque part, un hymne à l'amour, en fait. Donc, c'est un livre vraiment impossible à l'oublier parce qu'on ressort vraiment sonné. Sonné de cette virée dans l'âme humaine. C'est un livre un peu brutal, dérangeant, mais c'est aussi paradoxalement un livre d'une très, très grande beauté. Vraiment, c'est magnifique. À tel point que Stephen King, que vous connaissez tous, quand même un maître en la matière, a dit de ce roman que c'était un pur chef-d'œuvre. Donc, quand on a ce genre de, comment dirais-je, de critique ou de d'observation par le maître Stephen King, voilà, pour moi, ça veut tout dire. Et c'est vraiment, on va dire, la petite phrase ultime de la part d'un auteur comme Stephen King, quoi. C'est voilà, c'est vraiment un roman que je vous conseille. Ceci dit, c'est son premier roman. L'auteur a quand même mis 8 ans pour l'écrire parce qu'il s'est énormément documenté sur tout ce qui est lié à la botanie dans les forêts, à la façon dont on survit en forêt. Et donc, au-delà de l'aspect violence et rapports humains entre père et fille, vraiment parfois insoutenable, il y a toute cette beauté magistrale en fait de la nature, quoi. Donc voilà, je ne saurais que vous conseiller ce livre, donc Gabriel Talente, My Absolute Darling. Voilà, si vous avez merci, quelques...
Tu l'as... On sent que ça t'a embarqué, quoi.
Ah ouais, mais complètement, hein. Vraiment. Et je pense que ça peut embarquer n'importe qui d'entre nous, parce que je trouve qu'il y a une très grande sensibilité dans le texte de l'auteur. Et franchement, lisez-le, et peut-être qu'on en reparlera après. Mais c'est je rejoins Stephen King qui dit que c'est un chef-d'œuvre, quoi. C'est un pur chef-d'œuvre.
Bah, on mettra toutes les caractéristiques et les liens trouver et la présentation sur le site de l'Anthropode. Il y a pas mal de gens, voilà, ouais, qui disent que ça donne envie. Voilà, il y a plein de gens qui ont été, je crois que c'est Benjamin qui disait que l'écoute des podcasts le faisait consommer le produit culturel. Bah écoute, si on arrive à vendre entre guillemets, hein, ce type de choses qui nous ont plu, on en est très content. J'en profite pour faire un petit coucou à Difouille, parce qu'elle s'est trompée dans son pseudo. Donc Difouille est sur le live avec tout le monde là sur le chat. Christophe, je sais pas si chez toi on entend un clic-clic derrière.
Ah bon?
Est-ce qu'il y a un clic-clic chez toi?
C'est pas chez toi? Une bombe.
Une bombe. Non, mais c'est peut-être mes bruits de chaise, ouais, en fait. C'est peut-être
non,
la chaise
non,
dont
non,
on parlait.
Non, c'est peut-être pas les bruits de chaise, c'est pas les bruits de chaise. Non, non, c'est autre chose. Tu trouves tout de suite ce que c'est et t'arrêtes de nous faire chier, ok?
Bah, écoute, non, mais je pense que c'est les bruits de chaise. J'ai tendance à bouger un peu sur ma chaise et à m'agiter. Peut-être.
On veut pas savoir le reste. C'est bon. C'est bon. On veut savoir ce qu'il y a sur ta chaise.
Tu m'as l'air hyper tendu quand même.
Un rythme très régulier, oui. Bon, bref.
Oui.
Comment j'ai pas entendu.
Il est un rythme très régulier, mais bon, c'est pas grave. On va dire que ça doit être ça. Ouais.
Mais pourtant, il y a personne sous la table. Hein.
Non, mais je veux pas ça. Hein, voilà. Eh ben voilà. Eh ben bravo. C'est
super. Il fallait que je le dise parce que vos allusions étaient trop orientées.
Une belle perche, c'est ça, voilà.
C'est ça.
Et ben justement, on va tendre une belle perche aussi à Ludo, parce que le timing, c'est le timing. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Lulu qui va nous présenter un film, je suppose. C'est parti.
Pardon, la madeleine de Proust.
Hello and welcome. Hit the record button.
Il t'a plu le film?
Alors oui, Ludo, bon, bah, de quoi vas-tu nous parler de oui. Sympathique? On te laisse la parole.
Eh bien moi je vais vous parler d'un film sur un trou. En fait un trou bien noir. Je vais vous expliquer rapidement. En fait,
tu fais dans l'astrophysique maintenant.
C'est quand même effectivement bravo Christophe. Heureusement qu'il y a quand même il était là pour relever le niveau parce que sinon c'est quand même mal barré. Ben oui, en fait, ma Madeleine est en lien avec l'actualité du moment. J'imagine que tout le monde est au courant ici de l'ouverture de la plateforme Disney+ en France cette semaine. Qui n'est pas au courant? Et mes enfants ont pris l'essai gratuit le jour même, en fait. Alors bon, moi vous m'imaginez bien, moi je suis un peu confit dans mon snobisme hein, de CSP+, là, urbain mais pas trop. Alors bon, j'ai regardé le contenu des programmes proposés comme ça, bon, d'un œil vaguement distrait, avec toute la condescendance que je dois à mes gosses. Et puis je vois Natigan, Peter Elliott le dragon, super. Et d'un coup, pleine tronche, boah, le trou noir. Eh ben, je peux vous dire que celui-là, je l'avais bien enfoui au fond de ma mémoire. Alors, juste un petit retour en arrière quand même, parce que pourquoi le trou noir ? Le trou noir, c'est 1979. Et Disney, à l'époque, profite du renouveau de la SF au ciné, notamment avec le succès de La Guerre des Étoiles qui avait eu lieu 2 ans auparavant, pour sortir son grand film de SF à lui, Le Trou Noir. Et moi, ce que je fais dans l'histoire, eh ben, c'est que là, pour une fois, je vais vous parler d'un film que j'aurais rêvé de voir quand j'étais gosse. Et pourtant, à l'époque, j'avais eu la chance d'en voir plutôt pas mal et pas des moindres. Hein. J'avais eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient vraiment au cinéma. Et c'est là que j'avais découvert que soit La Guerre des Étoiles, Rencontre du Troisième Type, Superman, Le Gendarme des Extraterrestres, ouais, tout ça aussi. Et il m'avait emmené voir tout ça, mais j'ai pas eu l'occasion de voir Le Trou Noir quand il est sorti, donc en 80 en France, et j'avais 10 ans à l'époque. Et autant vous dire que l'histoire, je l'ai découverte pas au cinéma, mais en fait en bibliothèque verte à l'époque. Et à l'époque, l'histoire avait carrément enflammé mon imagination. Vous imaginez, on a 10 ans, on est un petit nain, et j'en ai fantasmé le film de toutes mes petites extrémités fébriles. Imaginez.
Pareil, alors, on peut pas savoir.
Imaginez juste 2 secondes, un croiseur spatial disparu depuis 20 ans, un savant fou qui veut explorer un trou noir et découvrir ce qu'il y a au-delà, un robot super flippant, en tout cas pour mes jeunes années, qui en plus avait une classe super folle, et sa parure là, des hommes transformés en humanoïdes zombies, un horrible secret, bref, vous l'avez compris, moi j'étais chaud patate. Mais bon, à l'époque, il n'y avait pas de streaming, il n'y avait pas de Blu-ray, à l'époque c'était en 80, bon, les cassettes vidéo démarraient à peine, il y avait des cassettes vidéo, mais il fallait les acheter à l'époque, ça coûtait une blinde, le vidéoclub n'était pas encore complètement en place, bon bref, au bout d'un moment, j'ai quand même fini par passer à autre chose. Et d'ailleurs, assez vite, hein, puisque de toute façon, les années 80 démarraient. Il était temps que je m'occupe avec des films vraiment qui allaient marquer la décennie. Et d'autant plus qu'en plus, à l'époque, Le Trou Noir n'avait pas vraiment marqué les mémoires à l'époque. Bon, bref, en tout cas, le moment était venu. Le moment était venu là, avec Disney+, de découvrir enfin ce film 40 ans après sa sortie. Film donc que j'avais idéalisé à l'époque. Alors, autant vous dire que découvrir un film 40 ans après, ça peut être un peu compliqué. Et ça l'a été un peu compliqué. On va pas se voiler la face. Alors, déjà rien que pour l'époque, le film est déjà très, très daté. Hein. Il est très kitsch dans sa forme, très, très coloré. C'est vraiment une déclinaison du space opéra alors en vogue, mais déjà une déclinaison assez datée. Et pour cause, malheureusement, le que ce soit la direction artistique, que ce soit les décors, il y a tout un côté, alors pour ceux qui connaissent un petit peu, un côté ce que j'appelle moi très SF à papa. Alors mon fils me disait, mais ça veut dire quoi SF à papa? En fait, SF à papa, ouais, c'est le côté très suranné, si vous voulez. Pour moi, la SF à papa, c'est les films des années 50, c'est une esthétique, c'est, je sais pas si certains d'entre vous ont vu Planète Interdite, avec Robbie le Robot, un film de 56. Eh ben voilà, on est en plein dedans. Alors que on est quand même, le film est sorti en 79 aux États-Unis, hein, donc après Star Wars. Donc que ce soit le design des intérieurs, les costumes vieillots, les démarches saccadées des robots, les dialogues qui sont vraiment artificiels au point qu'ils peuvent en être ridicules. Tout ça, si vous voulez, beaucoup de caricatures dans la description des personnages. Tout ça, malheureusement, tire le film vraiment vers le bas. C'est comme ça. Le film est bavard, le rythme est assez mou, et en plus de ça, il n'est pas aidé par la musique. Alors, c'est aussi paradoxal que ça puisse paraître, là encore, la musique est de John Barry, qui est quand même un compositeur qui nous a fait quand même, si vous pensez à Amicalement Vôtre, John Barry, c'est quand même Macadam
Cowboy. Enfin,
comment tu dis ?
C'est James Bond aussi, non ?
Oui, exactement, exactement, tout à fait. Et donc, voilà. Mais le score, lui, n'est pas du tout, est tout à fait honorable. C'est juste qu'il est juste à côté de la plaque par rapport à l'action qui se déroule. Et du coup, on a un côté un peu ventre mou. Et c'est un peu ce qui est dommage. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, le film est comme ça, il a cet aspect donc qui pousse vers le bas. Par contre, le film comporte quand même de vrais points positifs, il faut quand même le dire. C'est-à-dire que il y a
Ludo, je me permets de préciser, il y a Benjamin dans le chat qui dit ça, c'est ouais. La SF à papy.
C'est oui, exactement, t'as tout à fait raison. Ouais, ça doit être une question de génération, cette histoire. Alors, par contre, le film comporte de vrais points positifs. C'est-à-dire qu'on a, vraiment, pour le coup, un design, le design des vaisseaux, le design du Cygnus, qui est un grand vaisseau qui est aux abords du trou noir, qui est juste splendide, tout en architecture, en poutrelles d'acier, façon Jules Verne, steampunk. L'apparence du méchant robot, là encore, un peu le bad guy du film, est très, très réussi, je pense. Bon, à part quelques petits détails un peu à la con avec ses hélices tournantes, mais sinon, vraiment, il est splendide. Et surtout, les effets spéciaux, il y a des effets spéciaux qui étaient très réussis pour l'époque, notamment une scène finale qui est vraiment toute beauté et je dirais même une scène finale de toute beauté, mais en plus de ça une conclusion, je vais dire, dantesque au sens propre comme au sens figuré, sans trop en dire, mais avec des rouges, vraiment c'est magnifique, c'est splendide. Il faut juste voir qu'à l'époque ce film là Disney avait beaucoup de mal à se renouveler, essayer de sortir vraiment du lot, et par contre il s'est quand même pris de plein fouet Lucas Spielberg. Et effectivement, à l'époque, Disney s'est quand même trouvé complètement ringardisé. Et la difficulté, c'était que ce film permette de changer tout ça. Il faut voir que ça a été le film le plus cher produit par Disney à l'époque. Hein. C'était 20 millions de dollars de budget de réal. Le problème, c'est que quand on sort et qu'en face, vous avez Alien ou Star Trek à la même époque, ça pique sévère, quoi. C'est-à-dire que le trou noir, il est déjà loin derrière. Et puis, ça n'a pas raté parce que malheureusement, à l'époque, l'accueil critique et commercial avait été extrêmement mitigé. Alors du coup, avec les années, le film a gagné une petite aura, un peu comme d'autres films de Disney de l'époque. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, Tron était un de ces films qui faisait partie des expérimentations de Disney à l'époque. Bien sûr, Tron. En fait, Disney se cherchait beaucoup à cette époque-là, suite à la mort de Disney en 66, et il essayait vraiment de trouver sa voie. Et c'était extrêmement difficile. C'était les années très difficiles pour Disney. Il y a eu Tron qui a été un échec à sa sortie. Il y a eu d'autres films comme La Foire des Ténèbres, pour ceux à qui ça parle, notamment Les Yeux de la Forêt aussi. Bon, voilà. C'était Disney qui essayait d'expérimenter en dehors de ses schémas historiques. Donc, pour conclure, est-ce qu'il fallait voir absolument ce film ? Bon. Honnêtement, c'est pas l'écho qu'aurait pu laisser présager le titre. Mais par contre, bon, si vous n'êtes pas vraiment, dans le trip un peu SF, space opéra, ou si vous n'avez pas une curiosité, je dirais, sur ce genre de film-là, vous pouvez passer votre chemin. Par contre, moi, j'ai cru comprendre que, mais a priori, ce ne serait pas le cas, qu'un remake aurait pu voir le jour. C'est-à-dire qu'en 2009, il y a bien un remake qui a été envisagé par Walt Disney avec un gars qui s'appelle Joseph Kosinski à la réal. Alors Joseph Kosinski, c'est le type qui a fait Oblivion et Tron Legacy. Et là, je me dis que là, waouh, quand même. Mais malheureusement, bon, a priori, le projet aurait avorté en 2016. Le script a été jugé trop sombre par Disney. Donc bon, à voir, qui sait, peut-être qu'un jour ce sera faisable. Quoi qu'il en soit, pour moi, le matériau de base reste formidable. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sens du mystère. Enfin, genre, le trou noir, c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà du trou noir ? Qu'est-ce qu'on y trouve derrière ? c'est moi tout ce qui avait vraiment excité mes sens à l'époque. Hein. Et je dois vous avouer que, vous voyez, aujourd'hui, un remake était envisageable ou à nouveau envisagé. Je me reprends à rêver de ce que pourrait donner un tel film avec une réale et un scénario, une direction artistique à la hauteur. Et je crois que je me suis encore fait avoir parce que du coup, ça veut dire que je suis reparti pour encore peut-être, j'espère, 40 ans de fantasme. Voilà. Je te laisse la parole, carrément. Mon Nico. Voilà, écoute, voilà, mes amis. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le trou noir aujourd'hui.
Donc, c'est pas si cat que ça, parce que moi, j'en avais entendu parler plus dans les légendes urbaines comme quelque chose d'un peu très, très honteux, mais on peut le regarder avec un peu de recul.
Non, tu peux le regarder. Non, franchement.
Moi, j'avais adoré, moi, ce film. J'avais adoré.
Mais quand tu es enfant, je reste Mais bien sûr, Marius. En fait, le film n'est pas du tout le navet auquel on pourrait s'attendre. Maintenant, il y a des vraies lacunes. Hein. Je veux dire, mais le film se laisse regarder avec plaisir. Faut pas s'attendre à un chef-d'œuvre. Je le conseillerais pas comme j'ai pu conseiller certains films, au sens où forcément il faut quand même prendre beaucoup de recul en le regardant, surtout à nos âges. Maintenant,
mais
pour
je
les
vais
enfants,
me le refaire, moi. Je vais me le refaire.
Eh bien, vas-y. Je pense que tu auras. si tu es nostalgique de ce film-là, je pense que tu auras vraiment plaisir avec.
Et c'est rigolo ce que tu dis parce que pour ma part, je l'avais découvert en bibliothèque rose à la même époque. Enfin, peut-être un peu après toi.
Il est sorti en bibliothèque verte et en bibliothèque rose, effectivement, à l'époque. Mais on a une petite différence d'âge, je crois, 25 ans, et donc ça explique. Mais tu as raison, Arnaud. Il est sorti en rose et en verte.
Donc, et au final, est-ce que le remake va vraiment sortir ou pas ?
Eh bien, a priori, non. A priori, non. Enfin, en tout cas,
en
2016, le script qui avait été proposé a été finalement refusé par Disney parce qu'encore une fois, il était jugé trop sombre. Maintenant, tu sais, je suis pas dans les coulisses de prod et tout, mais tu as des projets comme ça des projets qui peuvent être enterrés, qui peuvent ressortir. Je pense qu'il y a un vrai potentiel, moi. Et je pense qu'on pourrait vraiment donner une espèce de. Quand on voit les dernières images, elles sont assez incroyables. Hein. Je m'y attendais pas. Franchement, ils sont allés loin dans le délire sur la fin. Enfin, sur une partie.
Bah écoute, je vais me prendre Disney Plus en essai là pendant une semaine. Je dirais ça, quoi.
Ouais, ça marche. Il y a des choses. Okay. Il y a le premier trône aussi. Allez vous jeter un œil dessus. Allez faire un œil. Ce sera sympa. Voilà.
Eh ben merci Ludo, super.
Ça marche. Merci.
Eh ben là on va passer à quelqu'un de moins sympa a priori, hein, puisque c'est notre cher ami JR qui vient se joindre à nous pour venir nous parler un petit peu certainement de Podren. Je ne sais pas, on ne sait jamais ce qui nous réserve cette personne. JR, êtes-vous prêt ?
Je suis prêt.
Mais pourquoi est-il si méchant ?
Ma plaisir. Vous m'entendez ?
Oui.
Bon. Oui.
Monsieur Arnaud a quelques soucis techniques. Je voulais préalablement m'en assurer. Bonjour à la sympathique équipe de l'Entrepod. Hein. Bonjour à nos amis de Podren et aux internautes qui nous écoutent. Hein. Je me présente, Jean-Robert Frégin. Hein, enchanté. Hein. Mais vous pouvez m'appeler JR. Oui, je vous explique. Hein. Pour reproduire l'ambiance pleine d'effervescence que l'équipe avait vécue en 2018, Monsieur Arnaud, qui m'accueille gentiment chez lui, a mobilisé ses proches, sa femme et ses deux enfants. On s'y croirait, hein. Aussi nombreux dans la salle qu'en avril 2018, quand j'étais venu à Rennes avec l'Entrepod. Sauf que faut bien admettre que les gosses ont l'air plus éveillés que le public de l'époque. Vous pensez bien que je peux pas passer sous silence le confinement, hein. En même temps, je peux difficilement faire autrement, hein. J'en ai les conséquences sous les yeux. Monsieur Arnaud, qui a l'infinie bonté de m'accueillir aujourd'hui chez lui, c'est bien simple. Vous le verriez, avec le confinement, il s'est tout tassé sur lui-même, hein. Oh, qu'est-ce qu'il a pris le cochon. Il est tout petit, tout poilu et tout gras. Un vrai petit marcassin. Ah bah non, pardon, c'est vrai. Il était déjà comme ça avant le confinement, hein. C'est vrai que globalement, l'équipe en a pris un coup, hein. Et il y a que Monsieur Nico qui n'a aucun souci avec le confinement. Lui, comme d'habitude, il passe ses journées à jouer aux jeux vidéo, à regarder des séries. Hein. C'est le seul pour qui le Covid n'a rien changé. Ah, si le confinement dure, vous verrez qu'il finira bien par en faire un podcast. De toute façon, Monsieur Nico, il finit par faire un podcast de tout ce qu'il fait. Il discute de tout et n'importe quoi avec des potes inintéressants. Il crée l'Entrepod. Il écoute un disque avec sa douce. Il fait la pifothèque. Il décide de créer son entreprise. Il fait le journal de bord d'un changement de vie. Et une fois sa boîte de l'huile dans les rouages installée, il en fait un podcast. C'est un toc chez lui, je vous dis. À ce propos, je profite d'avoir l'antenne en direct pour rétablir un fait historique à propos du Covid-19. On a tout mis sur le dos du pauvre pangolin, mais c'est injuste. Je sais de sources bien informées que tout cela découle en fait d'une malheureuse confusion. C'est le hérisson le problème. Tout ça, c'est parti d'un malentendu. Apparemment, la vérité, c'est que le virus serait parti de France, de Cléon même, en Seine-Maritime. Le patient zéro serait en fait un mangeur de hérissons qui travaillait jour et nuit dans sa caravane à fabriquer des lutins de Noël comme un petit chinois et qui avait une tête de pangolin. D'où la confusion. Ah oui, nos fidèles auditeurs l'ont reconnu, c'est Monsieur Marius. Hein. Ah, dommage que nous soyons pas en chair et en os. Hein. Les blagues sur le physique de Monsieur Marius auraient forcément mieux fonctionné. Hein. En tout cas, le patient zéro n'a jamais aussi bien porté son nom. Mais je m'étais réjoui trop vite. Hein. Lors du dernier épisode de l'Entrepod, grâce au confinement, on évitait, je cite, la double peine, la mise en abîme de l'angoisse, l'ennui mortel au carré. Un concert de Kenkyu à Podren. À seule la moitié de l'Entrepod non coupable de Kenkyu, groupe musical de l'autre moitié de l'Entrepod, seule cette moitié innocente, donc, qui avait expérimenté ces deux épreuves traumatisantes, pouvait comprendre mon... Et bien, non seulement, grâce à la magie du numérique, on subit quand même Podren, Mais en plus, ces inconscients, ils ont passé une heure de Kenkyu ce midi. Une heure, pas moins. Et ils envisagent de remettre ça ce soir. Kenkyu, hein, drôle de nom. Hein. Ça signifie recherche en japonais. Et recherche de la sortie de la salle, oui, pour le pauvre spectateur arrivé là par hasard. Mais surtout, Kenkyu, c'est une anagramme infernale qui annonce en fait la couleur depuis l'origine. Kenkyu, K-E-N-K-Y-U-U, mon compte triple, 137 points au Scrabble. Et dans des nombres, K-K-E-N-U-U-Y, qu'ennui. Mais oui, une anagramme née inconsciemment dans l'esprit des créateurs malades du D-Group. Kenkyu, le groupe qui naît qu'ennui. Kenkyu, ils étaient contents de pouvoir jouer à Rennes. Il faut dire qu'ils sont interdits de concert dans un rayon de 50 km autour de Rouen. Décision du département de la Seine-Maritime dans le cadre d'un programme de lutte contre la dépression. Quant à Pau de Rennes, j'avais pas été très bien éveillant avec eux la dernière fois en disant des podcasteurs présents qu'ils étaient les plombiers polonais des médias traditionnels. Mal ou pas payés, du travail de pied de qualité et une renommée à l'avenant. Bon, j'avais aussi dit que c'était le festival de Cannes du podcast. Bah ouais, à l'époque, je me moquais. Mais mine de rien cette année, le festival de Cannes n'aura pas lieu, alors que Pau de Rennes, oui. Ah, ils font moins les malins, Thierry Frémaux et Pierre Lescure. Hein. C'est l'année où tout bascule. Pau de Rennes prend le pouvoir. L'an prochain, je prends le pari que Quentin Tarantino et Ken Loach délaissent le palais des festivals et montent les marches du centre social Carrefour 18. Alors respect, hein. Respect. Et cette année, j'ai bien choisi de mettre de côté mon prétendu habituel mauvais esprit et de m'attarder un peu sur la programmation du week-end pour mieux la valoriser. Samedi, 10h. Une première émission, ma foi fort sympathique, la librairie Yokai. Hein, chaque mois, cette émission part à la découverte d'un nouveau Yokai. Vous savez, ces petits esprits, ces fantômes de la tradition japonaise. Ils retracent ses origines, son histoire, ses influences dans la culture japonaise. Hein. Par exemple, Shirime, l'œil des profondeurs, Yorogumo, la femme araignée. Mais nous aussi, on en a des Yokai dans l'émission. Mame Didouille, la femme bruit. Les Anakri Tapudoui, autrefois connue sous le nom de Grande Goula. Starlet, la femme picole, Katoubu, Monsieur Christophe, l'homme crâne, Yatouk est tombé, Monsieur Arnaud, l'homme boule, Tétou bouffi, et Monsieur Lulu, l'homme fontaine, tout costro, tétoua. 11h, un podcast sur les expos, conventions et festivals animé par Azertov, l'un des instigateurs de Pau de Rennes. Podcast dont le titre a visiblement été trouvé par Monsieur Marius. Quoi qu'il se passe, avec ce sous-titre, le podcast qui te fait sortir de chez toi. Le podcast qui te fait sortir de chez toi en ces temps de confinement. Mais vous croyez que c'est malin, bande d'inconscients ? 12h, les alliés numériques. Une communauté au service, au soutien des créateurs de contenu numérique. Les alliés, comme en temps de guerre. Les alliés numériques, c'est le bras armé de la guérilla menée par les soldats podcasteurs amateurs présents à Pau de Rennes qui œuvrent chaque jour dans l'ombre contre la qualité et l'exigence des médias traditionnels ou des vrais podcasteurs comme ceux de chez Magellan ou de Binge Audio, des professionnels, des gens sérieux, pas des utopistes comme ces zadistes du podcast présents à Pau de Rennes. Le premier sujet des alliés ce matin, comment améliorer le son ? Bah, peut-être simplement déjà en sortant les doigts du fondement et en faisant preuve d'un tant soit peu de rigueur. Hein. Bon, autant se dire que la guerre, ils sont pas prêts de la gagner. La preuve, ça fait des années que Monsieur Nico suit les conseils de Blast des sondiers et vous avez vu le résultat. Bon, 15h30, les gens de Oriog Création, spécialisés dans la création de fiction, animent un plateau juste après l'entrepode sur la représentativité des minorités dans le podcast. Ah, la diversité, c'est un peu la spécialité de l'entrepode. Hein. Un gitan. Un handicapé, un marginal. Et là encore, je ne parle que de Monsieur Marius. Hein. Mais à l'entrepode, il y a aussi plein d'autres minorités visibles. Hein. Un nain, un chauve, un fan des Charlots, et même, accrochez-vous bien, des femmes. Ah, 16h30, Monsieur Series and Friends, un podcast hebdomadaire sur les séries. Bah, sauf qu'une fois sur deux, il parle de films de Schwarzy ou de show télé US. Hein, cohérence, quoi. 17h30. Retour des alliés numériques pour une émission dédiée à Reaper. Reaper, je connaissais pas, hein, j'ai mené mon enquête. D'après Wikipédia, c'est un logiciel de Mao. Pas étonnant que ces gauchistes nostalgiques de la Chine communiste révolutionnaire. Hein, je vois qu'on aime ma fille ici à faire l'apologie des plus grands dictateurs. Comment ça, Mao, c'est de la musique assistée par ordinateur ? Pardon. Alors, dimanche, reprise à 10h. Les avis des moutons. Là, Monsieur Arnaud m'a interdit de dire quoi que ce soit à propos de ce podcast participatif, sorte d'émission de libre antenne podcastique. En effet, Aude, participante active et récurrente de cette émission, lui a signé un gros contrat pour une quinzaine de représentations de son spectacle Marketing du Rire. Bon, une représentation en fait, hein, pas 15. Hein. Et puis, c'est pas à l'Accor Hotel Arena non plus. Hein. C'est même pas à l'Ibis Budget Salle des Fiesta d'ailleurs, non. Non, c'est à Saint-Maur-les-Fossés, dans son atelier de tapisserie. Mais c'est très bien payé, attention, hein, c'est gratuit. En même temps, je ne doute pas, connaissant M. Arnaud, qu'elle en aura pour son argent. Dimanche, 11h30, ça va trancher. Le podcast des apprentis charcutiers. Avec un super témoignage de Sylvain, actuellement en deuxième année de CAP, qui nous racontera la première fois où il a découpé un jambon aux herbes. Non, je plaisante, hein, ça va trancher, c'est... C'est le podcast des sympathiques garçons qui assurent l'organisation logistique de Podren. Bah, pour être honnête, j'aurais bien aimé avoir de la matière pour me fâcher avec eux, mais et être ainsi dispensé de la pénible émission live que nous sommes en train de vivre, mais j'ai même pas eu le courage d'écouter. À 14h, demain, le duel. Ça, c'est un podcast de quiz auquel M. Lulu avait participé en 2018. Alors, il nous avait fait à la fois un peu de peine... Et un peu honte. Il était resté là, silencieux, mal à l'aise, vilipendé et moqué par les animateurs parce qu'il ne savait pas répondre à des questions sur les évolutions des Pokémon. Tenez-vous bien. Monsieur Lulu, il ne savait même pas que Tournegrin, avec une pierre soleil, eh ben, il évolue en Eliatron. Oh la honte. Et pire encore, hein, il y avait des questions jeux vidéo. Et il savait pas que dans Legends of Zelda, le boss du donjon 2, c'est Dodongo. Bon, du coup, personne n'a osé relever le défi d'une nouvelle participation après sa mémorable déconfiture. Hein. Bah, et puis, on veut bien être gentil et venir le samedi à Rennes, mais de là à revenir le dimanche, bah, c'est que ça fait de la route quand même. Hein. Bah, 15h30. Tiens, de prime abord, demain, voilà un podcast qui peut susciter de l'intérêt. Un podcast sur Liv Tyler. Comment ça? Ah, pardon, non. Ah, non. Liv Tyler. Le podcast des techno Windows, Xbox et Microsoft. Oh. Ah, vous voulez savoir ce que sont devenus les gars de l'INSA que vous croisiez au restaurant universitaire lorsque vous aviez 20 ans? À ceux qui portaient des anoraks de ski toute l'année en parlant avec émoi de leur première programmation sur MO5 et TO7? Eh ben, écoutez Lifestyle. Je vous l'avoue, hein, c'est un peu moins excitant que Liv Tyler. Bah, bon, sauf si vous êtes du genre à chercher sur YouPorn des vidéos de microprocesseurs en chaleur. Bon, comme si ça suffisait pas, ils fusionnent le temps d'une émission avec TechCraft, une émission de divertissement technologique et vidéoludique initialement dédiée à décortiquer les mises à jour de Minecraft. Oh bah, j'espère qu'avec ça, on vous aura mis l'eau à la bouche. Hein. Ah bah, pour vous donner une idée, hein, là où d'autres les invitent à les retrouver sur les réseaux sociaux, le premier truc qu'on lit sur leur site, c'est, je cite, « Nous rejoindre sur mumble.techcraft.fr, port 64738, entre parenthèses, port de base. » Ça donne drôlement envie, hein. C'est les rois du marketing à TechCraft. Hein. Laftile et TechCraft, quel crossover, hein, j'en salive d'avance. Bah non, je plaisante évidemment. Bah, en podcast, le crossover, c'est mathématique. C'est toujours deux fois plus ennuyeux que chacun des podcasts pris individuellement. Jamais d'effet positif, c'est scientifiquement démontré. Vous imaginez alors le désastre quand on a affaire à ce que j'appelle un podcast gigogne. Par exemple, l'Anthropode, qui comporte lui-même les membres de la Pifothèque, équipe qui comporte elle-même le membre du journal de bord d'un changement de vie. Qui compte lui-même, parmi ses nombreuses personnalités, le maître d'œuvre du futur podcast de l'huile dans les rouages. Une sorte de mouvement perpétuel et neurasthénique du crossover. À 16h30 demain, la désémission, joli titre, sous-titré « La culture avec modération ». Bon, ça pourrait aussi être le sous-titre de l'Anthropode. Hein. En fait, ça y ressemble en partie. C'est un peu comme un quiz de notre monsieur Freddy, mais qui durerait une heure tous les 10 jours depuis plus de 4 ans. Bon, voyons comment... Voyant comme il aime traduire sa vie en podcast, ça m'étonnerait pas que dans cet esprit, d'ici peu, Monsieur Nico décide de faire un podcast consacré à ses plus belles parties de Trivial Pursuit. Ouais. À 17h30, la journée se terminera avec Pépé Blind Test. Bah, ça me rappelle mon grand-père aveugle, mais en même temps, maintenant qu'il est sourd, il pourrait même pas participer au quiz musical. Bon. Oh, franchement, vous avez vu ce programme? Bah, je voulais être gentil, mais dans quels esprits malades l'idée de regrouper tous ces branquignoles a bien pu germer? Bah, Je comprends mieux pourquoi M. Nico n'avait ne cesse de dire à l'équipe « Mais si les gars, je sais qu'on s'est fait chier la dernière fois, mais on y retourne !» Au moins cette année, en virtuel, on se fadera pas nos poditeurs. Allez les gars, souvenez-vous qu'au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Et là, de ce point de vue-là, Podren, c'est plus un royaume, c'est un empire. Justement, monsieur Nico, on m'indique que le temps qui m'est parti est écoulé. Alors je vous rends l'antenne. Oh, bah, désolé de cette transition un peu gênante pour vous, monsieur Nico. Et en même temps, ça vous apprendra à cracher dans la soupe. Merci de votre attention.
Merci, JR. Enfin, je ne sais pas si on doit te remercier, oui, vraiment. Oui.
Salaud.
On a pris pour son grade. Il y en a pas mal de ceux que tu as cités qui sont dans le chat, donc je te laisse aller faire le service après-vente derrière. merci beaucoup d'avoir. Donc, on leur fait à tous ceux qui ont été cités, même ceux qui n'ont pas été cités. Voilà, tous ceux qui sont là encore parmi nous. Alors, bon, on a un petit peu exposé le timing qui était prévu, donc je vous propose qu'on saute nos coups de cœur parce qu'on n'a pas le temps de les passer. Il nous reste 4 minutes. Je vais juste laisser le coup de cœur de Starlet parce qu'elle n'a pas eu de rubrique, elle. Donc, on va lui laisser son coup de cœur et elle va nous présenter une musique que je vais lancer tout de suite.
Alors, c'est une chanson d'Emily King qui s'appelle Look at Me Now, qui est sortie en 2018. Et ben voilà, c'est une chanson que j'ai découverte pendant le confinement, que j'écoute plusieurs fois par jour. Donc, je pense qu'elle me rappellera ce moment-là. Et comme je trouve que c'est une jolie chanson, je voulais la dédier à toute l'équipe de Podren. Et je voulais aussi les féliciter pour leur capacité d'adaptation, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements finalement qui se sont adaptés aux conditions qu'on rencontre actuellement. Donc voilà, longue vie à Podren.
Voilà pour Starlet. Voilà aussi pour la fin de notre émission, hein, finalement, les amis. Ben oui. C'est grand merci, effectivement. Je me joins à Podren sur ce qu'elle vient à Starlet, pardon, sur ce qu'elle vient de dire. Merci à l'équipe de Podren. Un bravo tout particulier à Randall, à ses équipes, mais surtout à Randall pour sa patience et persévérance pour qu'on arrive à faire cette émission. C'était pas gagné. On a réussi à faire quelque chose d'à peu près. D'assez sympathique à écouter, à vivre. On espère que vous avez passé un bon moment dans notre compagnie. N'hésitez pas à nous le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Vous retrouvez tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui dans l'article de cette émission qui arrivera dans les jours à venir. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, sur entrepod.fr. On a toujours un Tipeee, n'hésitez pas. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'on se retrouve, hein, dans les conditions qu'on vit actuellement. Le plus rapidement possible, j'espère. Si jamais vous êtes intéressé, on a notre copain Freddy qui organise un blind test ce soir, musique et cinéma. Donc, ça sera sur un Discord. N'hésitez pas à nous le dire si vous êtes intéressé à 21h.
On a notre copain Marius qui vend de l'osier aussi.
Aussi.
Ouais, je fais tout ce qui est rotin et rempaillage de chaises. Hein, en ce moment, avec le confinement, je fais moins 50%.
Ah ouais, il y a autre qui va venir, je vois.
Un reste de iris aussi, forget, je crois.
Et Didouille nous rappelle, enfin Difouille, pardon, nous rappelle d'envoyer vos tableaux si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup. Il est 15h28. Derrière nous, vous allez avoir, dit Arnaud, d'autres émissions. C'est jusqu'à ce soir, ça reprend demain matin. Encore bravo à tout le monde et puis un bon festival. Et de vous dire à l'année prochaine et à Rennes.
Ouais, c'est possible.
Ciao.
Allez, bisous.
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 Salut.
Au revoir.
Ciao. Ciao.
Que sería